Alors, bon dimanche à vous tous. Et comme vous pouvez voir à l'écran, je me suis amusé à dire bonne fête des mères en plusieurs langues. Mais ça dit la même chose, n'est-ce pas? On apprécie nos mamans et on voudrait justement souligner cette journée qui leur est dédiée. Et en parlant des mamans, justement, j'ai trouvé quelques citations. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Un autre, c'est « Maman est celle qui gronde, mais qui pardonne tout. » Un grand cœur. Une maman, est une maman qui a pris sa retraite. Elle reste toujours maman. Et finalement, la fête des mères est semblable à la fête des pains, sauf ça coûte plus cher. Et vous savez, en parlant justement des mamans, j'ai préparé un message qui justement va nous donner des leçons. C'est un texte qui parle d'une mère, mais des leçons importantes que nous pouvons tous apprendre de sa vie. Alors, le message, c'est pour les mamans, c'est pour les papas, c'est pour les ados, c'est pour nous tous, parce que cette femme, une veuve, va nous enseigner ce matin des choses très, très, très importantes à propos de la vie. Et en parlant de la vie, vous savez, Stéphane a mentionné dans sa prière qu'il peut y avoir des personnes qui passent par les moments difficiles. Et ça, c'est un peu contraire à la vie humaine. Si je vous demanderais ce matin quel type de vie vous aimeriez avoir, on sait que tous, sans doute, vous allez répondre à une vie sans trop de difficultés, ou est-ce que, comme en anglais, on dit, c'est « smooth », puis, on peut pas de problème avec nos enfants, pas de problème dans le couple, pas de problème au travail, même parmi les frères et les sœurs à l'assemblée, pas de problème, tout est smooth, tout est cool. Mais j'ai une surprise pour vous, peut-être pas une surprise, mais vous savez, la vie n'est pas comme cela. N'est-ce pas? La vie et nous vivons dans un monde déchu. Vous et moi, nous sommes des êtres déchus. Alors, Job, il a bien dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Juste pour une explication de ce texte, Job n'est pas en train de dire qu'on passe tout le temps dans les situations difficiles. Ce serait insupportable. Mais il fait justement mention de que nous passons tous à un moment donné par des moments difficiles. Et je peux vous dire ce matin, dans un échantillon de la population ici, sans doute il y avait quelques-uns ici ce matin, votre vie est agitée. Alors, comment est-ce que nous réagissons quand les choses ne vont pas comme nous aimerions qu'elles aillent? Quand, par exemple, vous avez élevé des enfants, vous les avez amenés à l'école du dimanche et aujourd'hui, ils ne suivent plus le Seigneur. Si, par exemple, dans votre couple, le feu, comme on dit, est pris, au travail, vous avez à faire face à un patron qui est extrêmement difficile. Peut-être ici même, dans l'église, vous avez été déçu par quelques-uns. Alors, comment est-ce qu'on réagit dans ces situations difficiles? Alors, je vous donne quelques exemples. Parfois, on peut rester là et vraiment renversé, paralysé par la situation. Je donne l'exemple ici de Josué. Les enfants d'Israël ont connu une défaite cuisante devant une petite armée à la ville d'Haï. Et nous lisons que Josué, il a déchiré ses vêtements, il est resté visage contre terre presque toute la journée, paralysé. Parfois aussi, nous pouvons prendre la fuite et avoir aussi un esprit de pitié de soi. Et je parle ici d'Élie, un grand homme de Dieu qui a connu des choses extraordinaires avec son Seigneur. Et devant une menace, il s'est enfui, il s'en va dans le désert, il s'assit sur un arbre. Puis, Seigneur, pauvre de moi, prends ma vie, je ne suis pas meilleur de mes pères, je ne veux plus vivre. Et aussi, souvent, on peut aussi, dans une situation difficile, chercher un coupable. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et Dieu a demandé à Adam, « Qu'as-tu fait? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? » Et Adam, tout de suite, « Ah, voici la coupable, la femme, Dieu, que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné, puis j'en ai mangé. C'est pas de ma faute, c'est elle. » Et Ève, c'est pas de ma faute, c'est le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Vous savez comment est-ce qu'on peut justement, ce que j'appelle en anglais, « playing the blame game », jouer au jeu du blâme. Et des spécialistes de cela, c'était les enfants d'Israël. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans Exode, dans le livre de Nombres, combien de fois nous voyons les enfants d'Israël en train de blâmer Moïse, Aaron, même Dieu, des bons chioleux, comme on dit en bon québécois. Hein? Pourquoi Moïse, c'est ta faute, Dieu, c'est ta faute, Aaron, c'est de ta faute. Et qu'est-ce qui arrive justement quand on joue justement le jeu du blâme, cela ne change pas la situation, mais ça nous change. Et très souvent, nous pouvons développer des sentiments d'amertume, des sentiments de ressentiment, et nous perdons, si nous sommes un enfant de Dieu, c'est vrai, c'est sûr qu'on va perdre notre joie, et aussi à cause de ce ressentiment qui est en nous, il va y avoir des relations personnelles, interpersonnelles, difficiles les uns avec les autres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire face aux situations difficiles de la vie? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Alors, ce matin, j'aimerais vous demander de prendre vos Bibles et tourner dans 2 Rois, chapitre 4. C'est notre texte pour ce matin. Et vous allez voir cette veuve qui nous apprend des leçons importantes à propos de la vie quand la vie n'est pas rose. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er. Et nous lisons ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et enfin ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore une vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alors, voilà notre texte pour ce matin. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste simplement le mettre dans son contexte. Cette histoire se passe en Israël. Après le schisme, il y a maintenant deux royaumes, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Et les rois sont des rois en Israël, sont des rois impies. Ils sont tous corrompus. Ils ne sont pas des modèles qui devraient être pour le peuple. Alors le peuple n'est pas attaché à la loi de l'Éternel. Ni le roi, ni les prêtres et personne. Et cette femme vit dans ce milieu-là. Et dans le contexte, on voit sa situation qui est extrêmement difficile. Tout d'abord, elle est veuve. Et à l'époque, être veuve en Israël était quelqu'un qui était voué à une vie de pauvreté. On n'avait pas à l'époque que l'assistance sociale. On n'avait pas l'allocation du survivant. Les veuves en Israël, ça faisait pitié. Ensuite, elle a une dette. La Bible ne nous dit pas comment elle a contracté cette dette, mais il y a une dette. Alors, en plus d'être pauvre, maintenant, il y a une dette qu'elle doit repayer. Ensuite, elle a un homme, un créancier qui... On voit comment est-ce que cet homme est dur. Il n'y a pas de pitié pour cette femme dans cette situation difficile. Et en plus, cet homme veut maintenant réclamer sa dette. Elle n'a rien à payer. Et il va dire, OK, on va prendre tes enfants et j'en ferai mes esclaves. Et peut-être la femme avait cette espérance que ses enfants... une fois grandi, serait son soutien. Et souvent, c'est ce qui se passait. Les enfants prenaient soin, justement, de leur maman. Mais dans ce contexte ici, si les enfants disparaissent, sont esclaves, encore, et donc, le pétrin, comme on dit. Alors, c'est une situation très, très, très difficile. Et en plus de cela, j'imagine son cœur de mère qui voit, justement, que ses enfants... qu'importe le côté financier qui aurait été son soutien, mais maintenant qui vivent des choses difficiles eux-mêmes dans l'esclavage. Vous pouvez imaginer toute cette situation à laquelle elle doit faire face. Et vous savez, c'est une situation qui est extrêmement propice pour jouer le jeu de blâme. Elle aurait pu être amère, remplie de ressentiment, tout d'abord envers son mari. Peut-être c'est lui qui est le leader dans la famille, et c'est lui, son idée justement d'aller contracter une dette, et là il n'est plus là pour l'aider. Alors elle aurait pu avoir des sentiments d'amertume envers son mari. Elle aurait pu aussi blâmer le créancier. C'est quoi ça? Elle dit dans le texte, « Mon mari craignait Dieu, mais on voit ici un homme qui ne craint pas Dieu. » Et si vous lisez justement les lois dans l'Ancien Testament que Dieu avait donné face aux personnes qui contractaient des dettes, et justement le créancier, il n'avait même pas le droit d'aller dans la maison de la personne pour prendre justement le gage. Et voit cet homme ici, il ne craint pas Dieu. Il bafoue justement la loi de Dieu. Il veut rentrer dans sa maison et en plus prend ses enfants. Elle aurait pu justement blâmer peut-être son mari de ne pas avoir eu plus de discernement, pas avoir choisi quelqu'un au moins qui aurait eu un peu de pitié pour la situation. Elle aurait aussi, bien sûr, blâmé Dieu. Comment se fait-il, Seigneur, que tu m'as permis que je me suis marié avec un homme qui est allé justement contracter une dette pour qu'aujourd'hui maintenant je suis dans le trou. Elle aurait pu aussi blâmer Dieu pour dire pourquoi tu t'es permis que je me suis marié avec cet homme sachant qu'il allait mourir et moi j'allais devenir veuve. Comment se fait-il que tu m'as donné des enfants? J'étais tellement content, tellement contente, j'avais beaucoup de joie et maintenant ils vont devenir esclaves. Et ma joie, ça va être justement la tristesse. Pourquoi? Mais vous savez, cette femme nous enseigne, comme je dis, des bonnes leçons. Quand la vie nous amène, comme on a déjà dit ici, des citrons. Elle nous montre comment est-ce qu'on peut faire la citronnade avec. Et la première chose qu'elle fait, elle va vers le prophète de Dieu, Élisée, et nous lisons qu'elle cria à Élisée. Alors, voici une première réaction. Quand les choses ne tournent pas rond, quand la vie nous amène des choses difficiles, quand nous recevons, comme on dit en bon québécois, une brique sur la tête, on tourne vers l'Éternel. Elle cria vers Élisée, qui justement est le représentant de Dieu, l'homme de Dieu. Et j'aime beaucoup la première question d'Élisée parce que il dit, que puis-je faire pour toi? Il bien entend son histoire, mais avez-vous remarqué qu'il n'est même pas mentionné la dette? Parce que la dette, c'est tout tourne autour de cela. Ça, c'est la problématique. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de créancier. S'il n'y a pas de créancier, il n'y a pas de menace d'esclavage pour ses enfants. Ils peuvent au moins grandir et souvenir à ses besoins. Et il dit même par cela, que puis-je faire pour toi? Élisée ici me montre justement le cœur de l'Éternel. Un cœur de mère, un cœur de compassion. Et Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Frères et sœurs, ça c'est le cœur de notre Dieu quand on se trouve dans le pétrin, quand on se trouve dans les situations difficiles. Dieu nous invite à nous approcher de lui, de justement goûter à ses compassions, tourner vers l'Éternel pour des solutions. Alors, première chose, que puis-je faire pour toi? Mais après cela, Élisée va poser une deuxième question. Alors, nous voulons tous l'intervention de Dieu. Ça, c'est important, d'aller chercher à la bonne place l'aide dans nos situations difficiles. Mais avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il dit dans sa deuxième question? Qu'as-tu à la maison? Et l'emphase est sur « tu ». Alors, nous voulons tous l'intervention de Dieu, mais cela peut nécessiter notre implication. Et juste ici, une parenthèse. Dieu peut répondre à n'importe quelle situation de trois manières différentes. Si vous rappelez les enfants d'Israël, ils sont à la mer Rouge, Pharaon est en arrière, ils paniquent. Et qu'est-ce que Dieu le dit? Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Alors, ne faites rien, c'est moi qui m'en occupe. Deuxième manière de réagir est dans les situations difficiles. Dieu ne change pas la situation, mais il nous change. L'apôtre Paul, trois fois, il a demandé au Seigneur, j'ai une problématique, enlève-moi ça. Et Dieu a dit non, 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 quoi, ma grâce te suffit. Mais il y a une autre manière aussi, et ça c'est ce que nous avons dans notre texte ce matin, où est-ce que Dieu va intervenir, mais aussi il va demander notre implication. Il y a une problématique, mais toi tu vas faire partie de la solution. Pardon. Alors que cela peut nécessiter notre implication. Et vous savez, quand on regarde cela, on voit aussi d'autres exemples dans la parole de Dieu. Quand il va choisir Moïse, les enfants d'Israël sont esclaves en Égypte. Choisis Moïse, justement, et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main? Tu vas t'impliquer, Moïse. Il y a une solution, mais tu vas t'impliquer. Des disciples sont devant une situation difficile. Il y a une foule qui est là, la foule a faim. Jésus va leur poser la question, combien avez-vous de pain? Ils savaient ce qu'ils allaient faire, mais aussi, ils voulaient leur implication. Alors, voilà une manière que l'Éternel réagit dans les situations difficiles. Son intervention, mais qui nécessite aussi notre implication. Et cela, il y a quatre facettes à cela. Quatre facettes, aspects de l'intervention, de l'implication. Dans un premier temps, c'est l'inventaire. Et si vous gardez votre texte encore, au verset 2, Élie va dire ceci de B, « Qu'as-tu à la maison? » Et maintenant, l'emphase est sur son avoir. Tu vas t'impliquer, mais qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu à la maison? L'inventaire. Quand il a dit à Moïse, « Qui a-t-il dans ta main ?» Aux disciples, « Combien avez-vous de pain ?» Alors, dans cette, notre implication, première chose, c'est nos avoirs. Qu'est-ce que nous avons ? La deuxième chose que je vois, c'est parfois ce que nous avons peut paraître insignifiant. Regardez la réponse de cette femme. « Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. » C'est rien que ça que j'ai, comme on dit en bon québécois. J'ai rien que un vase d'huile. C'est minime, c'est insignifiant. Mais regardez bien à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Moïse avait? Il n'y avait rien du tout, mais qu'une verge. Gédéon n'avait rien du tout que 300 hommes. David n'avait rien du tout que qu'une fronde et 5 pierres polies. Et dans l'autre, deux autres exemples que je vous donne, il y avait la veuve de Sarepta, ça c'est avant, dans un roi, où est-ce que Élie, maintenant notre prophète, le précurseur de Élisée, avait fait un miracle. Et cette femme a répondu, je n'ai rien du tout qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Les disciples n'avaient rien du tout que 5 pains et 2 poissons. Alors dans l'implication, il se peut que ce que nous avons à nos yeux paraisse insignifiant. Et cette femme, elle a dit, oui, j'ai rien du tout devant ce créancier qui veut prendre mes enfants, devant cette grosse dette que j'ai, la seule chose que j'ai, c'est une vase d'huile. Mais maintenant, l'impossible. Et ça, c'est le côté de Dieu. Élie va lui dire de faire quelque chose qui, humainement parlant, est impossible. Va demander des vases vides, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et peux-tu imaginer comment ça tourne dans sa tête? J'ai un petit vase. Et là, tu me demandes d'aller chercher des vases qui sont vides. Je vais verser mon huile là-dedans, et à un moment donné, je vais mettre de côté des vases qui seront pleins. Impossible. Mais Moïse n'avait qu'une verge, mais avec cela, il a fait des prodiges en Égypte pour justement libérer le peuple d'Israël. Gédéon n'avait rien que 300 hommes, mais avec ces 300 hommes, il a battu les Madianites. David n'avait rien qu'une fronde, mais avec cela, il a terrassé le géant, etc., etc., etc. L'impossible. Et comme j'ai écrit à côté, on avait justement la source de la foi, la semence de la foi, mais la spécialité. Quand Dieu nous demande de faire des choses lors de son invention, Dieu est le spécialiste justement des choses qui nous paraissent impossibles. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Et le texte dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel. Alors, il faut, dans cette intervention, ce qui devrait nous encourager, c'est que Dieu est le spécialiste des choses qui nous paraissent impossibles. Ça, c'est sa spécialité. Et finalement, l'inimité. Il va lui dire à cette femme, cette veuve, va demander des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Peux-tu imaginer maintenant? Elle va demander des vases vides, mais en plus de cela, beaucoup, 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 beaucoup. Pas un petit, là. Alors, la porte est ouverte ici. Est-ce que ça va être 50? Est-ce que ça va être 100, 200, 300? Mais il dit, pas un petit. Alors, c'est quoi, pas un petit? Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore une vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Et remarquez bien, l'huile coulera aussi longtemps que la veuve pourra présenter des vases vides pour le recevoir. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Et ça, c'est le standard de la foi. Il ne faut jamais limiter Dieu dans ses interventions. Quand il nous demande justement de faire coéquipier avec lui, lui intervient, nous nous impliquons, mais il y a aussi cette notion de qu'il soit fait selon votre foi. Hein? Alors, pas un petit nombre. Alors, voilà, ça c'est les leçons que cette veuve nous enseigne, cette notion que Dieu peut intervenir dans les situations difficiles, mais ça peut aussi nécessiter notre implication. L'intervention de Dieu peut parfois nécessiter notre implication. J'aimerais maintenant vous laisser avec deux questions. Dans un premier temps, dans quelle situation vous vous trouvez ce matin? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un est dans une situation difficile. J'aimerais vous encourager ce matin. Jouer le jeu du blâme, c'est facile, mais comme je vous ai montré que ça ne change pas la situation et ça peut vraiment avoir des répercussions difficiles dans votre vie. Cette femme nous démontre qu'on tourne vers Dieu et on crie à l'Éternel. Et ça se peut que si vous faites cela, Dieu va vous demander de vous impliquer dans ce qu'il va faire. Et la question qu'il va vous poser, c'est qu'avez-vous? Comment est-ce que vous pouvez faire partie de la solution? Qu'avez-vous? Et il ne faut pas mépriser ce que vous avez, aussi petit que soit-il. Parce qu'avec Dieu, comme nous avons vu, l'impossible devient le possible. Et si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans l'autre camp. Cette femme avait une dette. Et tous ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ont une dette de leur péché. Et cette dette, comme cette femme, il n'y a personne sur la terre qui est capable de payer la dette que nous avons envers un Dieu qui est trois fois saint, une personne. Et cette dette ici a des conséquences. Comme cette femme allait perdre ses fils, si cette dette n'a pas été payée, ils allaient devenir des esclaves, le péché aussi a des conséquences. Et ça, c'est le message de l'Évangile. On commence avec une mauvaise nouvelle. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché fait en sorte que nous ne pouvons pas avoir une communion intime avec Dieu. Le péché fait en sorte que si nous mourons dans nos péchés, nous sommes séparés d'avec Dieu pour l'éternité. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit ce matin, regardez ce que j'ai fait pour vous. J'ai payé votre dette. À la croix du Calvaire, Dieu, par amour, a envoyé son fils Jésus. Et ce qui nous était impossible est devenu possible parce que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et par amour, la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire si nous sommes dans cette situation-là? Comme cette femme, crier à Dieu. Et Dieu va tout simplement dire, regardez ce que j'ai fait pour vous. Et comment est-ce qu'on peut justement bénéficier de ce que Dieu a fait pour nous? Trois choses. Tout d'abord, reconnaître que nous avons une dette. Deuxièmement, se repentir. Ça veut dire simplement quoi? Se mettre d'accord avec Dieu. Oui, Seigneur, j'ai péché. Oui, tu es saint et je ne peux pas vivre selon ton standard. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, Seigneur, je te remercie. Et je veux recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur, ton Fils Jésus-Christ, qui a payé ma dette à la croix du Calvaire, parce que toi, tu m'aimes et tu n'as pas voulu que je passe l'éternité séparée d'avec toi. Ça, c'est le message de l'Évangile. Dieu est en train de dire à l'humanité, regardez à la croix et regardez ce que j'ai fait pour vous. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin, vous ne connaissez pas le Christ, voici justement le message pour vous. À travers cette vie de cette femme, qui nous démontre que Dieu est celui qui veut intervenir, mais aussi qui exige notre implication. Et si nous confions au Seigneur, par sa grâce et par la puissance de sa parole et par son esprit, nous pouvons justement changer la situation va être changée. Et avez-vous remarqué ce que Élie dit à la fin? Je termine avec cela. Il dit, paye ta dette, mais tu vivras. Toi et tes enfants. Et la dette de Christ paye les péchés et nous donne justement la possibilité de vivre éternellement avec Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces leçons importantes que tu nous enseignes.